Nous allons prier ensemble. Seigneur, nous aimons ta présence. Nous aimons être auprès de toi parce que nous savons que c'est toi le Père qui nous a accordé le plus grand des cadeaux. Seigneur, et pour continuer à vivre ce cadeau jour et jour, pour continuer à en retirer tous les bénéfices, nous savons que nous avons besoin d'être enseignés par toi. Nous savons que nous avons besoin de nous mettre à l'écoute de ta parole. Alors Seigneur, en ces instants, nous nous mettons à ton écoute comme des serviteurs, pleins d'amour envers toi, pleins de disponibilité, pleins d'accueil, pleins d'écoute. Nous voulons vraiment te prier, Père, de nous parler. Que ton esprit de lumière, que ton esprit de vie puisse nous diriger dans ces instants, qu'il nous amène réellement à aller au plus près de toi, Seigneur. Et que tu puisses vraiment éclairer nos esprits, éclairer nos vies, éclairer notre Église, éclairer notre avenir, éclairer nos familles, Seigneur, pour que vraiment ton nom soit glorifié. Nous sommes vraiment là, Seigneur, avec un désir ardent de nous mettre à ton écoute. Alors, Seigneur, parle-nous, sanctifie-nous par ta vérité, parce que c'est ta parole qui est la vérité. Amen. Nous bénissons le Seigneur qui nous comble de ses bienfaits, jour après jour, et qui nous bénit aussi par la grâce qu'il nous accorde d'être aujourd'hui dans sa maison et de nous mettre à son écoute. Nous allons donc lire deux passages ce matin. Un premier qui se trouve dans le livre du prophète Jérémie, chapitre 2, et là nous allons lire les versets 1 à 28, c'est un passage assez long, mais c'est nécessaire de lire tout ça pour comprendre le contexte et le message qui est contenu dans le texte. Jérémie, chapitre 2, versets 1 à 28. Voici ce qui est écrit. L'Éternel m'adressa la parole en ces termes. Va à Jérusalem et crie à ses oreilles. Voici ce que déclare l'Éternel. Je me souviens de ton amour au temps de ta jeunesse et combien tu m'aimais au temps de tes fiançailles. Lorsque tu me suivais à travers le désert dans une terre inculte, car Israël était alors consacré à l'Éternel, tout comme les prémices d'une récolte, tous ceux qui en mangeaient étaient châtiés. Et l'Éternel, et le malheur les atteignait, l'Éternel le déclare. Vous, communauté de Jacob et toutes les familles du peuple d'Israël, écoutez la parole que l'Éternel prononce. Voici ce que dit l'Éternel. En quoi donc vos ancêtres m'ont-ils trouvé en tort pour s'éloigner de moi, pour s'en aller après des dieux qui ne sont que du vent et n'être plus eux-mêmes que du vent? Ils n'ont pas demandé où donc est l'Éternel qui nous a fait sortir d'Égypte et qui nous a conduits à travers le désert, au pays de la steppe remplie de fondrières, dans une terre aride où règnent les ténèbres, et dans une région où ne passe personne et où n'habite personne. Or, je vous ai conduit vers un pays fertile pour en manger les fruits, des produits excellents. Mais une fois arrivé là, vous avez souillé ce pays et fait de mon domaine un lieu abominable. Les prêtres n'ont pas demandé où donc est l'Éternel. Les spécialistes de la loi ne me connaissent pas. Les dirigeants du peuple se sont révoltés contre moi, et les prophètes même proclament leur message au nom du dieu Baal. Ils vont après des dieux qui ne servent à rien. C'est pourquoi je vais faire un procès contre vous, contre vos descendants. L'Éternel le déclare. Rendez-vous aux îles de Kittim et regardez, ou envoyez des hommes à Kedar et qu'ils observent bien. Voyez si jamais il arrive une chose pareille. Existe-t-il un peuple qui est changé de Dieu? Et pourtant, ces dieux-là ne sont pas des vrais dieux. Pourtant, mon peuple a échangé celui qui faisait sa gloire contre ce qui n'est rien. Cieux, étonnez-vous, soyez horrifiés et consternés, l'Éternel le déclare, car mon peuple a commis un double mal. Il m'a abandonné, moi, la source d'eau vive, et il s'est creusé des citernes fendues qui ne retiennent pas l'eau. Israël est-il donc un esclave acheté ou né dans la maison? Pourquoi est-il mis au pillage? Des jeunes lions rugissent contre lui et ils ont transformé son pays en désert. Ses villes sont brûlées, personne n'y habite. Et même les habitants de Memphis, ceux de Daphné, vous ont brisé le crâne. Pourquoi donc tout cela t'arrive-t-il ? N'est-ce pas pour avoir délaissé l'Éternel ton Dieu, alors même qu'il te guidait sur le chemin ? Maintenant, que te sert de partir en Égypte pour aller boire aux eaux du Nil ? Et que te sert de prendre la route pour te rendre en Assyrie, pour aller boire les eaux du fleuve ? Car ta méchanceté entraînera ton châtiment, et ta révolte fera venir ta punition. Sache et vois combien il est mauvais, combien il est amer d'être détourné de l'Éternel ton Dieu, et de ne plus avoir aucun respect pour moi. L'Éternel le déclare, le Seigneur des armées célestes. Voici, depuis toujours, tu as brisé ton joug, tu as rompu tes liens en disant, je ne veux plus être esclave. Mais sur toute haute colline et sous tout arbre vert, toi tu t'es allongé tout comme une prostituée. Moi, je t'avais planté comme un excellent cep d'une variété sûre. Comment se fait-il donc que tu te sois changé en plant dégénéré d'une vigne sauvage ? Quand tu te laverais avec de la potasse et que tu emploierais des quantités de soude, la tache de ta faute resterait devant moi. C'est là ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Comment oses-tu dire, je ne me suis jamais souillé, je ne suis pas allé après les Baals ? Va observer la vallée, dans la vallée les traces de tes pas. Reconnais ce que tu as fait, chamelle écervelée qui va gambadant ça et là. Oui, ânesse sauvage qui a l'habitude de vivre dans les steppes désertes. Le feu de sa passion lui fait renifler l'air. Qui pourrait réfréner l'ardeur de ses désirs ? Tous ceux qui la cherchent n'auront pas à se fatiguer, car ils la trouveront quand elle est en chaleur. Prends garde que ton pied ne se déchausse pas. Prends garde à ton gosier qui va se dessécher. Mais toi tu réponds, c'est peine perdue. J'aime les étrangers, c'est eux que je veux suivre. Comme un voleur a honte lorsqu'il est découvert, ainsi seront honteux la communauté d'Israël, ses rois et ses ministres, ses prêtres et ses prophètes. Ils disent à du bois, tu es mon père, et à la pierre, toi tu m'as mis au monde. Ils m'ont tourné le dos, ne m'ont pas regardé en face, mais au jour du malheur, ils disent, lève-toi et sauve-nous. Mais où donc sont les dieux que tu t'es fabriqués ? Qu'ils se lèvent donc, eux, s'ils peuvent te sauver quand le malheur t'atteint. Car ô Juda, autant tu as de villes, autant tu as de dieux. Amen. Le deuxième texte que nous connaissons bien, dans Luc, l'évangile selon Luc, et nous le relisons uniquement pour ne pas perdre de vue ce qu'il contient, mais nous en avons déjà parlé. Luc chapitre 15, versets 11 à 20. Luc 15, 11 à 20, voici ce qui est écrit. Puis il poursuivit, un homme avait deux fils, le plus jeune lui dit, « Mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir un jour. » Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là. Et il commença à manquer du nécessaire. Alors il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs garder les porcs. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les caroubes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors il se mit à réfléchir sur lui-même et se dit, « Tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi je suis ici à mourir de faim. » Je vais me mettre en route, j'irai trouver mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se mit donc en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement, jusque-là, la parole de Dieu. Le texte de Jérémie que nous venons de lire est un long texte, on l'a dit, c'est vrai que c'est une longue explication, mais il ne faut pas beaucoup de temps pour se rendre compte de quel type est ce texte-là, quel est le message que Dieu transmet. Il s'agit d'un message que Dieu adresse à son peuple au travers de Jérémie le prophète. Et dans ce texte, Dieu constate l'éloignement de son peuple. Dieu constate que son peuple, le peuple d'Israël, le peuple qu'il s'est choisi, le peuple qu'il a racheté d'Égypte, le peuple qu'il a sauvé, le peuple qu'il a aimé, le peuple dont il s'est occupé s'est éloigné. Ce peuple s'est rebellé, il a commencé à refuser d'accepter d'être le peuple de Dieu et d'obéir à ses commandements. Et ce peuple s'est tourné ou est tombé dans l'idolâtrie. Et vous voyez à quel point on nous décrit comment est-ce qu'il court après d'autres dieux. Un peuple qui a abandonné l'Éternel, qui a abandonné la grâce de Dieu, qui a abandonné l'enseignement de Dieu, qui a abandonné la proximité avec Dieu pour se tourner vers toutes sortes d'autres dieux, pour refuser de lui obéir. Et Dieu, dans ce texte-là, se présente vraiment comme un père ou comme un mari qui dit ou qui crie à ses enfants ou qui crie à ceux qu'il aime, « Mais revenez !» Revenez, je suis là, mon cœur est ouvert, mes bras sont ouverts, je vous veux, vous êtes mes enfants, je vous veux auprès de moi, je veux pas que vous puissiez continuer à vous en aller au loin, à suivre tous les dieux qui passent, je vous veux près de vous. Autant le texte est un texte de condamnation, de jugement, on l'entend bien qu'il s'agit pas de bonnes nouvelles, autant derrière le jugement qui est prononcé, on entend l'amour d'un père qui ne dit qu'une seule chose, c'est « je veux que tu sois près de moi ». Je veux que malgré ce qui s'est passé entre nous, que malgré l'éloignement, que malgré tout ce que tu as pu faire, tu reviennes vers moi. Et le texte utilise plusieurs métaphores pour nous parler de cette relation entre Dieu et son peuple. Vous l'avez lu au tout début, on nous parle d'une relation de mariage, les fiançailles, le temps des fiançailles, qui représente le temps où il y avait une bonne relation entre Dieu et son peuple, où le peuple lui était attaché, où il s'aimait, et il dit, le temps où tu me suivais dans le désert, le temps où il y avait cette relation de proximité entre Dieu et son peuple. Et puis, tout doucement, ça avance, et il commence à parler d'adultère. Donc, le peuple n'est même plus le peuple qui reste avec Dieu, c'est un peuple adultère qui s'en va vers d'autres idoles. Et après, on va encore plus loin, puisqu'il compare ce peuple à une prostituée, parce que peuple qui, quelque part, qui se faisait des dieux chaque fois qu'il en rencontrait un. Il y avait tout autour d'Israël tout un ensemble de peuples qui avaient des dieux différents. Et quand on regarde bien, tous les peuples, tous les dieux qui étaient autour d'Israël, Israël a commencé à les adorer, tous les Baals, et avec un S, parce qu'il y avait beaucoup d'autres dieux. Et donc, Dieu la compare à une prostituée qui s'attache à des idoles qui ne sont que du vent. Et au verset 13, il met en évidence à quel point c'est fou. C'est complètement fou, cette attitude. Il leur dit, vous avez abandonné la source d'eau vive pour choisir des citernes trouées. Vous avez abandonné la source d'eau vive. Vous avez abandonné votre père pour vous choisir des citernes trouées. Mais aussi, et à la fin du texte, Dieu se présente, ou présente plutôt cette relation comme étant une relation filiale. Il dit, je suis votre père, je suis celui qui vous a engendré, et pourtant vous dites à une pierre et à du bois, mon père, c'est toi qui m'as engendré. Et quelque part, quand on lit ce texte-là, ça nous fait penser quand même au texte du fils prodigue. Ça nous fait quand même penser à ce fils qui était dans la maison de son père, qui était avec son père, qui avait la joie de son père, qui avait l'héritage de son père, qui était complètement comblé d'être avec son père et qui a quitté la maison de son père. Israël aussi, dans ce texte-là, a quitté la maison de son père. Et quelque part, c'est une tendance que nous avons sans cesse de nous éloigner de Dieu, de quitter ce lieu qu'il a prévu pour nous, ce lieu où il veut que nous soyons, ce lieu où il peut nous donner tout ce dont nous avons besoin. Ces deux textes nous parlent encore une fois de l'importance de rester dans la maison du Père. L'importance de rester dans la maison du Père. C'est une tendance humaine récurrente dans toute la Bible, dans tous les prophètes, c'est comme ça. L'homme veut quitter la maison du Père. Malgré le fait que nous avons tout à la maison, malgré le fait que Dieu est pleinement compatissant, pleinement affectueux avec nous, malgré le fait que son cœur crie pour nous, son cœur nous appartient, nous sommes l'objet de tout son amour, de toute son affection, de toute sa bonté. Malgré tout, nous avons sans cesse ce désir de quitter la maison de notre Père pour aller découvrir d'autres dieux, aller découvrir d'autres pratiques, aller découvrir d'autres manières de faire. Alors, pour rappel, la maison du Père, c'est quoi? La maison du Père, ce n'est pas l'Église. Alors oui, l'Église est la maison de Dieu, mais dans ce cadre-ci, ce n'est pas un lieu physique. Il ne s'agit pas seulement d'être à un endroit, d'être à Genappe, à Morlanwé, ou non. La maison du Père, c'est l'espace, c'est le lieu où je prends pleinement conscience que je suis un fils aimé de Dieu, où je développe mon obéissance envers lui et où je reçois son éducation. Donc la maison du Père, c'est pas une heure, c'est pas un lieu, c'est pas un moment, c'est pas pour des personnes, c'est le moment ou la situation dans laquelle je suis quand mon cœur est pleinement auprès de Dieu, conscient, pleinement conscient de tout l'amour qui nous saisit, conscient que ma place, elle est en train de lui obéir, en train de faire sa volonté, en train de m'attacher à ce qu'il dit, et où je prends conscience que ma place, elle est de recevoir l'éducation qu'il veut me donner. Dieu veut m'éduquer, il veut m'apprendre des choses, il veut me donner une forme, il veut que je puisse servir à quelque chose. Dieu nous dit, et Dieu dit dans ce texte-là, et comme il peut le manifester aussi dans le texte du Fils prodigue, « Viens à moi, je suis tout ce dont tu as besoin. » Nous allons dans la maison du Père lorsque nous prenons conscience que c'est tout ce dont nous avons besoin, être auprès de Dieu. Nous n'avons pas besoin d'être ces gens qui courent auprès des étrangers. Alors les étrangers, c'est les autres dieux, c'est la pensée du monde, c'est le péché, c'est tout ce qui peut troubler notre relation avec Dieu. Nous n'avons pas besoin de tout ça. Nous n'avons pas besoin d'être auprès des hauts hommes, nous n'avons pas besoin d'être exceptionnels, nous avons juste besoin, notre juste place, elle est dans la maison de notre Père, en train de l'écouter, en train de faire sa volonté, en train de nous attacher à lui. Et c'est là que notre âme est comblée. Notre âme, elle est faite pour être dans la maison du Père. Alors rappelez-vous la définition du bonheur qu'on avait donnée la dernière fois. Le bonheur, c'est ne vouloir être ailleurs que là où on est déjà. Ou en d'autres termes, le bonheur, c'est être heureux d'être là où on est. Hein? En vérité, ça se vérifie dans toute la vie, dans toute notre existence, ça se vérifie. Celui qui fait un travail où il se plaît bien, c'est une source de bonheur pour lui. Il est là où il veut être. Celui qui habite dans une région qui lui plaît, dans une maison qui lui plaît, c'est une source de bonheur pour lui. Il est à un endroit sans vouloir être ailleurs. Hein, celui qui est marié et qui est avec son conjoint et qui est heureux d'être avec son conjoint, qui sait qu'il est avec la bonne personne, c'est une source de bonheur pour lui. Le bonheur, c'est ne vouloir être nulle part ailleurs que là où on est déjà. La frustration, c'est le contraire. C'est avoir sans cesse envie d'être ailleurs que là où on est. N'est-ce pas que c'est frustrant d'être toujours dans une situation, de ne pas être satisfait et de se dire « oui, je suis là, mais j'aimerais bien être ailleurs ». Oui, j'ai ça, mais j'aimerais bien avoir autre chose. C'est ça la frustration. Mais le bonheur, c'est lorsque nous nous rendons compte que je suis là où je dois être, je n'ai pas besoin d'autre chose. Hein, c'est ce que Marc disait. Hein. Je n'ai besoin de rien. Parce qu'elle est chrestienne. Elle n'est pas là. Elle est partie. Ah, bon. Ah oui, excuse. Ah, ça va. Tu es parti. Tu es là. C'est ce qu'il disait. Hein. Il disait, je n'ai besoin de rien. C'est une source de bonheur pour nous d'être dans la maison de notre Père et de dire « Je n'ai besoin de rien d'autre que de voir Dieu, que de l'écouter, que de lui obéir. » Ce bonheur-là. Au camp de famille, j'ai fait une petite expérience, parce que j'aime bien faire des expériences avec vous, un petit peu vous décortiquer sur tous les points pour bien vous connaître, bien connaître votre âme et tout ça. J'ai fait une expérience avec une sœur de la communauté. C'était le temps de l'apéritif, et elle avait son verre en main. Alors je lui dis, donne-moi ton niveau de bonheur sur une échelle de 1 à 10. Je ne l'avais pas encore bu. Elle me dit, 2,5. Je dis, ah, ça va. Tu peux boire maintenant. Alors elle boit. Et je lui dis, et maintenant, donne-moi ton niveau de bonheur sur une échelle de 1 à 10. Elle me dit, 11,5 sur 10. C'est choquant, hein? Je vois bien que ça vous choque, hein, ça. C'est honteux quand même. De trouver le bonheur dans une gorgée comme ça. Hein, je vois que ça vous choque. Vous êtes vraiment mal à l'aise. Non, c'est vraiment inadmissible. Hein. Surtout Olivier. Je vois que Olivier n'aime pas tout ça. Hein, ça l'énerve hein, quand on. Je ne vous dirai pas qui est cette sœur-là. Je ne peux pas vous le dire. J'ai envie, mais je ne peux pas. Mais en tout cas, c'est ce message que Dieu nous adresse dans ces textes-là, c'est que nous avons besoin de trouver le bonheur en lui. La parole dit, je dis à l'Éternel, tu es mon maître et tout mon bonheur est en toi. Notre juste place, elle est dans la maison du Père, assurée de son amour. Vous connaissez ce chant qu'on chante souvent, avec toi Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Sûrs de ton amour. Notre place, elle est en train de recevoir toute la tendresse que notre Père a pour nous, en train de partager les festins qu'il nous a donnés, en train d'obéir à ses instructions. Vous savez bien que dans la vie, il y a les gens qui sont casaniers et puis il y a les gens qui ne sont pas casaniers. Les casaniers, c'est ceux qui aiment bien rester à la maison. Donc, être chez eux en train de regarder la télévision, c'est le must. Et les vacances, partir, s'en aller, aller au cinéma. Moi, j'aime bien rester chez moi près de mon petit poêle. Et puis, il y a les autres gens. Il faut toujours qu'ils soient partis. Ils ne peuvent pas rester en place 10 minutes. Bon, où est-ce qu'on va aujourd'hui? Ah, mais nulle part, on reste là. Donc il y a des gens comme ça qui ont toujours besoin d'explorer, d'aller chez les gens, d'aller au cinéma, de danser, de s'amuser. Alors effectivement, quand le mari est casanier et que la femme veut tout le temps s'en aller, ça crée des disputes. Mais ça, c'est pas la question. Mais donc, c'est-à-dire que pour nous aussi, dans notre relation avec Dieu, dans notre relation spirituelle, nous pouvons être casaniers ou pas. Nous pouvons être des gens, malheureusement, malgré le fait que Dieu nous a donné tout ce dont nous avons besoin, malgré qu'il nous donne même un enseignement qui est parfait, il nous adresse des paroles qui sont excellentes pour nous, excellentes pour notre âme, nous pouvons parfois perdre cette attitude de casanier et aimer tout le temps, quitter la maison de notre Père. Vous savez, quand Jésus est monté avec ses disciples sur le mont de la Transfiguration, et qui sont arrivés là, ils étaient en train de dormir, quand ils se sont réveillés et qu'ils ont vu la gloire de Dieu, Pierre a dit, Seigneur, nous allons construire des tentes et nous allons rester dans ces tentes-là. Et le texte nous dit qu'il était un petit peu dans les vapes, endormi, et ce serait peut-être pour ça qu'il aurait raconté n'importe quoi, ou alors c'est la puissance de la gloire de Dieu qui l'a fait perdre la tête. Ça montre bien quel plaisir ils avaient d'être dans la présence de Dieu, quel plaisir qu'ils avaient d'être dans ce lieu où Dieu montre toute sa gloire. Nous aussi, nous sommes appelés à être ces gens-là. Notre cœur dans la maison de notre Père. Notre cœur dans la maison de notre Père. Alors, quand est-ce que nous quittons la maison du Père? Nous quittons la maison du Père, par exemple, lorsque nous ne donnons pas d'importance aux commandements ou aux enseignements de Dieu. Lorsque ce que Dieu nous dit n'a pas d'importance pour nous, là nous quittons la maison de notre Père. Lorsque l'enseignement que Dieu peut nous donner, lorsque les conseils que Dieu peut nous donner n'ont pas de valeur, ne sont pas précieux, là nous quittons la maison de notre Père. Nous quittons la maison de notre Père lorsque nous cherchons le secours ailleurs. Lorsque nous cherchons le secours dont nous avons besoin ailleurs. Le secours dont j'ai besoin dans ma vie, pour les situations que je traverse. Parfois, on peut avoir tellement de propositions pour aller plus vite, pour faire mieux. Nous cherchons le secours ailleurs. Plutôt que de dire, Seigneur, je veux te faire confiance, je veux m'attendre à toi, je veux croire que tu m'entends, je veux croire que tu es là. Nous cherchons le secours ailleurs. Nous quittons la maison de notre Père lorsque nous perdons de vue l'amour que Dieu a pour nous. Lorsque malgré le fait qu'on nous en parle, malgré le fait qu'on nous enseigne là-dessus, nous perdons de vue que nous sommes aimés de Dieu, tellement aimés de Dieu, que lorsque nous perdons conscience de l'honneur qui lui est dû. Hein, lorsque Dieu devient un pote, un copain, à qui on peut parler comme on veut, à qui on peut demander ce qu'on veut, nous quittons la maison de notre Père. Le fils prodigue, lorsqu'il a quitté la maison de son Père, d'abord, la première chose, il a quand même perdu la vision de son Père. C'est ça le problème. Il a oublié qui était son Père. Il a oublié tout l'amour que son Père avait pour lui. Et il a oublié une chose, c'est que son Père était encore en vie. Parce que vous savez tous qu'on ne demande pas l'héritage à son Père alors qu'il est encore en vie. Vous avez déjà fait ça, vous? Non. Bon, vous m'inquiétez un petit peu, là, ce que je me dis. On ne demande pas l'héritage à son père pendant qu'il en... Ça ne se fait pas. Hein? Et chez les Juifs, en vérité, il y a une prière qu'on appelle le Kaddish. et qu'on fait quand, quand son père est décédé, on dit cette prière-là. Et le jeu consiste à ne pas dire la prière alors que le père est encore vivant, parce qu'il considère que c'est comme si on désirait que son père soit vivant. Et donc, dans la pensée biblique, demander l'héritage à son père, c'est comme dire « tu n'es plus en vie pour moi, tu n'as plus de valeur ». Nous quittons la maison de notre père lorsque nous commençons à ne plus donner toute la valeur à Dieu, toute la place qui lui est due, lorsque nous oublions tout cet amour qu'il a pour nous. Nous quittons la maison du père lorsque nous doutons de sa présence, de son soutien, de son accompagnement, de sa présence. Nous quittons la maison du père lorsque nous préférons écouter les conseils qui viennent de tout horizon plutôt qu'écouter les conseils de Dieu. Ça, c'est peut-être notre danger, le danger qui nous guette tout le temps. C'est que plutôt que d'écouter les conseils que Dieu nous donne, nous sommes tentés d'écouter tous les conseils de tout le monde qui viennent de partout, sauf de lui. Et vous savez que nous devons être très attentifs à toutes les pensées qui sont véhiculées dans le monde. Nous sommes dans un monde où les pensées sont vite véhiculées dans la télévision, dans les réseaux sociaux, des pensées comme ça qui passent et que nous attrapons comme étant ce qui est bon pour nous, alors que ce n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Hein, vous savez, je vous avais donné l'exemple, il y a des pensées comme ça, ça se transmet entre nous, c'est comme une culture, hein, c'est comme des principes, des adages qu'on dit, mais qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu et qui vont tronquer notre manière de vivre. Vous savez, dans les familles, quand il y a trois enfants, on dit toujours, celui du milieu, c'est le pire. Ouais, ben c'est ridicule, mais je connais des gens qui ont toute leur vie fonctionner avec cette certitude-là que bon, celui du milieu, c'est le pire, s'il est comme ça, c'est parce que c'est celui du milieu. Aurélien, c'est le milieu, oui, mais ben, je l'ai fait exprès, c'est pour ça. Non, non, je rigole. C'est peut-être le contraire, hein, mais bon, ce sont des pensées comme ça qui passent. Hein, dans tous les couples, il y a des problèmes. Ben, évidemment, si on dit ça, on se dit, bah oui, de toute façon, si c'est comme ça, c'est comme ça. Il y a des pensées comme ça, des choses qu'on voit sur Facebook, des pensées qu'on se transmet l'un à l'autre, des conseils hein, sur la vengeance. Hein, moi, je suis chrétien, je suis pas crétin, si jamais il y en a un qui m'embête, voilà. C'est des petites paroles comme ça, et ça, on accepte ça parfois. Nous quittons la maison de notre père lorsque nous oublions que ces conseils sont les meilleurs pour nous. Quand Dieu nous dit de pardonner, il sait pourquoi il nous le dit. Lorsque Dieu nous dit de ne pas nous venger, il sait pourquoi il nous le dit. Tout ce que Dieu nous dit est bon pour nous. Et nous quittons sa maison lorsque nous commençons à douter que les conseils de Dieu sont bons pour moi. Nous quittons la maison de notre Père lorsque notre vie commence à tourner autour de ce qui est futile, tout ce qui est passager. Ou alors, lorsque nous cherchons la paix, la joie, la tranquillité dans les procédés humains. Nous cherchons la paix, nous cherchons la joie dans tout ce qui est humain, plutôt que de la chercher auprès de Dieu. La Bible dit, si quelqu'un est dans la tristesse, qu'il chante des cantiques. Hein, et il ne dit pas, si quelqu'un est dans la tristesse, qu'il fasse du yoga, qu'il aille prendre des... Je ne dis pas que le yoga est mauvais, mais pour un enfant de Dieu, le premier réflexe que nous devrions avoir, c'est de chercher la paix que Jésus donne. Cette paix qui surpasse toute intelligence, cette paix que le monde ne peut pas donner. Hein, oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Mais à côté de ça, nous pouvons quitter la maison de notre Père en disant, il me manque de la paix, il me manque de la joie, je vais aller la trouver un peu partout, dans tout ce qu'on me propose. Et c'est ça que je vais utiliser pour être en paix, être en joie. Le réflexe de l'enfant de Dieu, je suis dans la tristesse, je vais vers mon Père. Je demande sa paix, je demande sa joie. C'est dans sa maison qu'il y a ce dont j'ai besoin. Et même les enfants, quand ils sont mariés, ça leur arrive de retourner chez leurs parents. Hein. Parfois, ils disent « Maman, je viens tout à l'heure, tu sais pas me préparer des petites croquettes ou quoi ?» Bon, pour la femme, c'est pas très élogieux. Hein. Et voilà, ils retournent chez... parce qu'ils savent que là, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Et c'est la même chose avec nous, avec Dieu. Nous quittons la maison de notre Père lorsque nous laissons nos yeux nous attirer vers tout ce que Dieu ne veut pas, vers tout ce que Dieu ne nous conseille pas. Nous quittons la maison de notre Père lorsque nous faisons des projets sans Dieu. Ça nous arrive, ça. Hein, on fait des projets entiers, on construit une vie toute entière sans s'interroger sur « Mais qu'est-ce que veut mon Père finalement ? Quelle est sa volonté quelque part ?» Le réflexe de l'enfant de Dieu lorsqu'il veut faire un projet, lorsqu'il veut faire une entreprise, lorsqu'il veut entreprendre quelque chose, c'est de se mettre chez son Père et de dire « Seigneur, quelle est ta volonté pour moi ? Dirige-moi, conduis-moi, montre-moi la voie. » Et je connais des gens qui élèvent ça très très haut dans leur vie et qui en font réellement un principe, même pour acheter une voiture. Seigneur, dirige-nous. Ça peut paraître ridicule, mais ça dépend où est-ce qu'on veut placer son standard de vie. Ça dépend comment est-ce qu'on veut vivre, c'est une question de choix. C'est-à-dire, est-ce que je veux laisser beaucoup, beaucoup d'espace à moi, ou est-ce que je veux diminuer pour qu'il croisse ? Dire, Seigneur, dans toute ma vie, je veux être dirigé par toi. Parce que certaines décisions qui paraissent ridicules peuvent en fait avoir de très grandes conséquences pour nous. Vous savez que déménager bêtement, si je dis « Ah, moi j'ai envie d'aller habiter en France », c'est ridicule. Ben, ça a des conséquences. Hein. Ou si je dis « Je veux aller déménager en Espagne ou en Allemagne », ça a des conséquences. Ou même si je dis « Je veux déménager dans une sale ville, à Manage par exemple », hein, ça a des conséquences. Je veux aller avec tous ces gens-là, ces gens bizarres... Donc ça a des conséquences. Nous avons besoin d'être des gens qui demandent à Dieu sa volonté. Seigneur, qu'est-ce que tu veux ? Ça ne doit pas tourner au ridicule de dire, Seigneur, est-ce que je vais prendre la mayonnaise de chez Ixina ou de la mayonnaise de chez Bosch ? Mais ça, c'est important que nous soyons des enfants qui demandent la volonté à notre Père. Nous quittons la maison du Père lorsque nous refusons de nous soumettre à sa volonté, à ses plans. Lorsque nous lui manquons de respect, lorsque nous oublions la crainte qui lui est due, lorsque nous passons des journées entières loin de sa présence. Bien-aimés, que Dieu puisse nous rassurer et nous faire comprendre que nous avons besoin d'être dans sa maison. Alors, quelles sont les caractéristiques de la maison du Père ? Premièrement, la maison du Père, c'est la maison de la confiance. C'est la maison où nous développons notre confiance envers Dieu. Notre confiance dans sa présence, notre confiance dans sa fidélité, notre confiance dans son amour, notre confiance dans son soutien. La maison du Père, c'est la maison de l'obéissance. La maison où nous apprenons à lui obéir, à faire sa volonté. La maison du Père, c'est la maison du contentement. C'est le lieu où nous sommes contents de ce que nous avons, contents de ce qu'il nous donne, contents de là où il nous a placés. La maison du Père, c'est la maison de l'écoute. Benoît en a parlé la semaine passée, la maison où on apprend à écouter Dieu. On apprend à tenir compte de sa parole, de sa volonté. La maison du Père, c'est une maison de l'éducation. Une maison où Dieu nous éduque. Et peut-être que c'est vraiment ce qui parfois nous manque, c'est d'accepter d'être éduqué par Dieu. Éduqué par Dieu. La maison du Père, c'est la maison de la liberté. Où l'esclavage, les chaînes tombent. Et nous devenons libres, libres de le servir. C'est une maison d'amour et de miséricorde, un lieu où l'amour de Dieu nous rassasie et un lieu où nous sommes pardonnés. Un lieu où nous sommes pardonnés, où la miséricorde de Dieu nous rencontre. La maison du Père, c'est un lieu de repos. Un lieu où on trouve son repos en Dieu. Vous connaissez ce que dit ce texte. « Faites connaître tous vos besoins à Dieu, car il prend soin de vous. » Et puis il termine. « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs en Jésus-Christ. » Lorsque nous sommes dans la maison de notre Père, nous déposons sur lui nos fardeaux et nous faisons un échange. Je dépose mes fardeaux et je reçois sa paix. Je reçois sa paix. Et cette paix me permet d'être dans le repos, de me reposer. Il y a tellement de gens qui ont des difficultés à dormir. Pas juste parce qu'ils sont vieux ou qu'ils ont des problèmes de santé, mais parce que les soucis de la vie les tourmentent, les écrasent. Je connais quelqu'un qui travaille dans une pharmacie et qui dit c'est terrible de voir le nombre d'antidépresseurs qu'on doit donner aux gens. C'est affreux. Ça ne fait qu'augmenter. Alors, ce n'est pas un péché de prendre des antidépresseurs, mais ça veut dire que nous avons besoin de cultiver le repos en Dieu. Je veux me reposer sur toi. Je veux te faire confiance. La maison du Père, c'est la maison de la joie. La Bible dit quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. et le visage ne se couvre pas de honte lorsqu'on tourne vers lui les regards. Imaginez la joie qu'il a pu ressentir, ce fils-là, lorsqu'il a vu le festin, ce veau gras qui était tué pour lui, et tous les invités qui étaient là, et la fête. C'est un endroit où Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin pour nous réjouir. Il veut notre bien. Il veut notre bien. La maison du Père, c'est la maison de la patience et de la persévérance. C'est une maison où on apprend à être patient. Où on apprend à respecter le temps de Dieu. Et c'est une maison où Dieu nous apprend à persévérer, à tenir bon, à tenir ferme, à aller plus loin, malgré les difficultés, malgré les oppositions, malgré ce qui ne va pas. C'est une maison où nous apprenons à connaître Dieu et où nous limitons. Nous découvrons qui est Dieu et ça a un impact sur nous, si bien que nous commençons à l'imiter, nous commençons à lui ressembler. La maison du Père, c'est une maison où nous apprenons à découvrir les œuvres de Dieu. Dieu nous appelle à rester dans cette maison, à rester dans la maison du Père. Alors ce matin, nous allons voir rapidement trois points. Maison de la confiance, maison de l'obéissance, maison du contentement. Premièrement, la maison de la confiance. David dit, « Éternel, mon cœur ne s'est point enflé, et mes yeux ne se sont point élevés, et je n'ai point recherché des choses trop grandes et trop hautes pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. » C'est le psaume 131. Loin de là, j'ai l'âme tranquille et calme, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Quand David parlait de sa confiance en Dieu, l'exemple qu'il donnait, c'est un enfant dans les bras de sa mère. Un enfant dans les bras de sa mère. Le lieu le plus sécurisant qui soit. L'enfant n'a rien pour se défendre et il ne cherche pas à se défendre. Il sait bien qu'il est dans les bras de sa mère, qu'il est au bon endroit, qu'il est protégé, qu'il est aimé, qu'il est entouré, c'est le meilleur endroit où il puisse être. Nous aussi, dans la maison du Père, nous apprenons à faire confiance à Dieu, à lui faire confiance, si bien que nous devenons des personnes qui peuvent dire aussi, j'ai l'âme comme un enfant sevré, je suis en paix, Seigneur, je te fais confiance, je te fais confiance. Et avant ça, il dit, je n'ai pas recherché des questions trop hautes pour moi. Quelque part, ce qu'il veut dire, c'est, je ne suis pas tout le temps dans la recherche de ce qui est supérieur, de me poser des questions, je ne cherche pas pourquoi, je ne cherche pas comment, je ne pose pas des questions auxquelles je n'ai pas de réponse. Je te fais confiance. Je fais confiance que tes projets sont bons. Je fais confiance que ta volonté est bonne. Je fais confiance que tes décrets sont justes. Je fais confiance que tout ce que tu le fais par amour. Là, vous connaissez le psaume on n'en parle pas souvent, mais c'est un psaume que nous utilisons souvent, car son amour durera toujours. À chaque phrase, on dit, il a fait ceci, car son amour durera toujours. Il a jugé tel peuple, car son amour durera toujours. C'est vraiment ça. Tout ce que Dieu fait, il le fait par amour. Et nous développons la confiance, parce que nous nous rendons compte que, Seigneur, waouh, tout ce que tu fais dans ma vie, tu le fais par amour. Même si je ne le sais pas, même si je ne le vois pas, même si je n'en ai pas les preuves, je sais que tout ce que tu fais, tu le fais par amour. Absolument tout ce que tu fais. Même ce qui est difficile, même ce qui est pénible, tu le fais par amour. La parole dit, « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. » Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Soyons des personnes qui se confient en l'Éternel, qui lui font confiance. Le cœur de la maturité chrétienne, c'est lorsque les attributs de Dieu, les choses qu'on nous dit de Dieu, deviennent des réalités pour nous. C'est-à-dire que quand on me dit Dieu est saint, par exemple, ça c'est une idée qu'on te dit, Dieu est saint, ok. Mais dans ta vie, qu'est-ce que ça veut dire ? Dieu est saint, ça veut dire que Dieu est incapable de faire le mal. Il est étranger au mal, il ne l'a jamais fait, il ne peut même pas y toucher. La maturité pour moi, c'est lorsque le fait que Dieu est saint s'accomplit dans ma vie, je le comprends, je m'en rends compte, je le vis, de telle sorte que je me dis, Seigneur, ce que tu as fait ici, tu ne peux pas l'avoir fait pour le mal. Ce que tu fais dans ma vie, ça ne peut pas être mal, ça ne peut pas être mauvais. Tu ne peux pas être méchant envers moi. Tu es le Dieu saint, aucun mal en toi. Lorsque on me dit Dieu est sage, Dieu est sage, c'est une idée, c'est une parole, c'est une, hein, on peut la lire dans un livre ou quoi. La maturité, c'est lorsque le fait que Dieu est sage, je le comprends, je l'intègre dans ma vie. Et je me rends compte que si Dieu est sage, toutes ses paroles sont sages. Chaque commandement de Dieu est rempli de toute la sagesse de l'univers. Il n'y a pas mieux que les commandements de Dieu. Il est sage. Il sait pourquoi il nous dit ce qu'il nous dit. Tous ces commandements qui sont dans sa parole, qui ont l'air lourds, qui ont l'air pénibles, qui ont l'air embêtants. Il est sage. Ce n'est pas un père qui donne des conseils à la légère. C'est un Dieu sage. Et je grandis en maturité lorsque ça s'accomplit dans ma vie. Et donc je commence à mettre en pratique sa parole parce que je sais que Seigneur, ce que tu as dit, c'est la sagesse. C'est ce qui est sage. Je n'ai pas besoin d'ajouter. Et c'est pour ça que le proverbe dit, ne te confie pas dans ton intelligence. Parce que très souvent, notre tendance, elle est laquelle? Lorsque nous lisons un commandement de Dieu, nous disons, ouais, c'est bien beau, mais j'ai ma petite idée sur la question. Hein? On a toujours notre petite idée sur la question. Ça, c'est ça le problème avec nous, les humains. On ne sait pas obéir. On aime toujours faire à notre tête. Et donc, quand Dieu nous enseigne quelque chose, il dit par exemple... quel exemple on va donner? Si on te frappe sur la joue gauche, donne la joue droite. On va dire, ouais, j'ai lu le verset, mais je sais mieux que toi, Seigneur. Je sais ce que j'ai à faire. Voilà notre tendance. Lorsque nous refusons de mettre en pratique le commandement, nous disons, Seigneur, je sais mieux que toi. Tu n'es pas assez sage. Ta sagesse est limitée. Moi, je suis sage. Moi, je vais lui en retourner une et ça va marcher. Avec moi, ça marche, Seigneur. Avec moi, ça porte du fruit, Seigneur. Mais tes commandements à toi, c'est ringard, on s'en fiche. La sagesse de Dieu, elle s'accomplit dans notre vie lorsque nous nous rendons compte qu'il est pleinement sage, il sait ce qu'il fait. Deuxièmement, la maison de l'obéissance. En réalité, obéir, c'est faire confiance à Dieu. Quand j'obéis, je fais confiance que ce que Dieu m'a dit, c'est juste, c'est droit, c'est bon, c'est correct. L'obéissance et la confiance en Dieu, c'est une même chose. Dans la maison de notre Père, nous apprenons à lui faire confiance. L'apôtre Paul a dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Dans la maison de notre Père, nous apprenons à obéir. Et nous apprenons à renverser les raisonnements en nous, les pensées en nous qui s'élèvent contre la connaissance de Christ. Donc tout ce qui en moi, dans mes pensées, s'élève contre Christ, je dois le renverser et je dois amener mes pensées captives à son obéissance. Captives, c'est-à-dire des pensées qui soient sous l'approbation de Dieu. Dans la maison de notre Père, nous apprenons à obéir et à détruire toutes ces pensées-là qui sont en nous, qui s'installent en nous. Hein, je donne toujours l'exemple de la vengeance. Mon père était... Je donne cet exemple-là parce que les autres exemples... Moi, je ne sais jamais ce qu'il faut... Parce qu'après, il y a des gens qui choquent. Oui, mais il a dit ça pour moi, et il pensait à moi. Donc, je donne un exemple que tout le monde est d'accord. Sinon, après, il y a des débats, des discussions. Bon. La vengeance, par exemple. Ma pensée... La pensée qui peut s'élever contre la connaissance de Christ, c'est de dire œil pour œil, dent pour dent, par exemple. En plus, c'est dans la parole, ça, donc c'est encore plus difficile à enlever. Ça peut être la pensée qui, en moi, s'élève contre la connaissance de Christ. Pour moi, œil pour œil, dent pour dent. Ou alors, pour moi, la pensée, ça peut être la fin justifie les moyens. Hein, on peut faire tout ce qu'on veut du moment que ça atteint un objectif bon. Il y a tellement de pensées en nous qui peuvent s'élever contre la connaissance de Christ. Des pensées sur les autres, des pensées sur tellement de choses. Des pensées, parce que vous savez que toute pensée produit un acte. Et tout acte produit une habitude, toute habitude produit une destinée. Ah non, un caractère, et tout caractère crée une destinée. Chaque pensée que nous avons en nous produit quelque chose. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on lit. Parce qu'en réalité, quand vous lisez un livre, l'auteur vous parle, il met des pensées dans votre tête. Alors, il y a des pensées que vous arrivez à trier, vous arrivez à en rejeter certaines. Et puis, il y a parfois des erreurs ou quoi qui peuvent s'installer comme ça dans notre pensée. C'est intégré à notre façon de réfléchir et ça s'élève contre la connaissance de Christ. Quelles sont les pensées qui, en toi, s'élèvent contre la connaissance de Christ? Il y en a tellement qu'on a parfois hérité de nos pères, qu'on a développé par nous-mêmes. Mais quelles que soient ces pensées-là, nous avons besoin d'apprendre à les détruire pour obéir à Dieu. Pour obéir à Dieu. Notre objectif, c'est d'abandonner la situation de fils rebelle, de fils insoumis, de fils esclave, pour devenir des vrais fils dans la maison du Père. Les fils ne sont pas des esclaves, les fils ne sont pas des rebelles, les fils ne fuguent pas, les fils restent chez leur Père et obéissent à sa parole. Ils détruisent les pensées qui vont contre lui et ils lui obéissent. Troisièmement, c'est la maison du contentement. La maison de Dieu, la maison du Père, c'est la maison où on apprend à être content de ce qu'on a. La Bible dit, et c'est l'apôtre Paul qui le dit, « Je sais vivre, j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Et en tout et partout, j'ai appris à être rassasié et avoir faim, à être dans l'abondance et être dans la disette. Je peux tout par celui qui me fortifie. » Il dit dans Timothée, « C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Dans la maison de notre Père, nous apprenons à être contents. Seigneur, je suis content de ce que tu me donnes. Je suis content de ma situation, je suis content de là où tu m'as placé. Je me satisfais, Seigneur, de ce que tu me donnes. » La première chose qui nous fait quitter la maison du Père, c'est la convoitise. C'est-à-dire quand nos yeux, quand notre chair nous attire vers l'extérieur et où nous nous imaginons qu'il y a mieux que chez notre Père. Le contentement, c'est tellement difficile dans la vie d'être content de là où on est. Et c'est une source de bonheur. Quand on est content de ce que Dieu nous donne, quand on est content de là où il nous place, on peut être vraiment heureux. Apprendre à être content. Content des membres de ma famille, tu m'as donné, ils ne sont pas parfaits, ils font des erreurs, tout ça. Mais je suis content. Hein, content des gens de jumets, mais je suis content. Hein? On est content d'être ensemble. On est content de se voir, on est content que les autres soient là. On est content de tout ce que Dieu nous donne. C'est tellement bon d'apprendre à être content, de dire « Seigneur, je reçois tout de ta main. » C'est ce que la Bible dit, « Je reçois toute ta main et je suis content de ce que tu me donnes. » Vous avez déjà certainement expérimenté ça dans la maison ou alors au restaurant, par exemple. Au restaurant où vous êtes à deux ou à trois, par exemple. Et alors, chacun choisit son plat. Donc évidemment, il y a une carte et chacun choisit son plat. Alors, il y a personne qui a une arme pour vous obliger à choisir votre plat. Vous choisissez librement votre plat. Et alors, vous choisissez, moi je vais manger ça, et toi, qu'est-ce que tu vas manger? Je vais manger ça. Vous discutez, vous discutez, vous discutez. Ben, il y a que les gens qui vont au restaurant qui comprennent. Les autres, vous demanderez aux autres après. Bon. Ou alors, vous irez en face expérimenter. Chacun a son plat qui arrive, et on commence à manger. Et tout à coup, alors que c'est vous qui avez choisi votre plat, le plat de l'autre commence à vous donner envie. Tiens, tiens, chou, est-ce que je peux goûter ce que tu as commandé? Hein? Et parfois même dans la maison, les mamans disent, bon, aujourd'hui, j'ai bon cœur, je vais faire un repas, deux repas. Je vais faire des pâtes pour ceux qui veulent et des patates pour ceux qui veulent. Ben, si vous choisissez les pâtes, en mangeant les pâtes et en voyant l'autre qui mange des patates, vous aurez envie de manger des patates. C'est tellement difficile d'être content de ce que nous avons. Alors là, effectivement, souvent, c'est pour goûter. On aime bien goûter. Mais bien plus que ça, dans la vie, on le sait bien, que même quand Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin, nous sommes encore capables d'aller désirer autre chose. Même quand Dieu nous a bénis dans notre famille, dans notre église, dans notre travail, il y a toujours quelque chose qu'on n'a pas et qu'on voudrait avoir et on n'est jamais satisfait. La maison du Père, c'est une maison où on apprend à être content. On apprend à dire merci. On apprend à vivre avec ce qu'on a. On apprend à vivre dans les conditions qui sont les nôtres. Et ça, c'est tellement... Ça, c'est une richesse. Vous savez que le texte dit « C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. » C'est une richesse, le contentement. Quand on sait être content de ce qu'on a, on est riche. On est riche parce qu'on dit « Seigneur, je suis content. Merci pour ce que tu m'as donné. » La maison de notre Père, c'est une maison qui est tellement bonne pour nous. Restons-y. Et la prochaine fois, nous verrons les autres caractéristiques de la maison du Père. Mais avant de terminer, voici quelle devait être notre prière à nous qui sommes ses enfants. Notre prière, elle devrait être celle-ci. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler sa magnificence, la magnificence de l'Éternel, et pour admirer son temple. Et le même qui dit « Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. » Que Dieu nous aide par son esprit à nous maintenir dans sa maison, parce que c'est là que nous avons tout ce dont nous avons besoin. Amen. Alléluia. Yeah, il est midi. Je deviens un champion, hein? Quand ça ne va pas, vous le dites, mais quand ça va, vous ne dites rien, hein? Donc,